Vous écoutez, on lit pour vous.
Un clown à prendre pour modèle. Un texte de Pauline Salis et Vincent Laudet, paru dans le magazine Pour la science, numéro 538. Les poissons clowns sont bien plus que des héros de films. Ce que l'on découvre de leur développement, de leur vie sociale et de leur biologie en fait d'ores et déjà des stars de laboratoire dont bien des mystères restent encore à éclaircir. Le poisson-clown. Le nom vernaculaire poisson-clown désigne le genre amphiprion qui rassemble une trentaine d'espèces connues. Les colonies regroupent le plus souvent une demi-douzaine d'individus et rien ne semble être organisé au hasard. On y trouve toujours deux individus d'une quinzaine de centimètres, chacun de taille différente, qui souvent sont préposés à une mission sur un rocher à proximité immédiate de leur hôte. Prendre soin de leurs œufs. Tous les autres poissons sont de petite taille et il n'y en a jamais deux de taille identique. Certains, minuscules, quelques millimètres, semblent effrayés par les plus gros et restent toujours en sécurité entre les tentacules de l'anémone. L'anémone de mer. Les anémones de mer peuvent être rassemblées en trois groupes, formés d'au moins 10 espèces différentes. Les anémones tapis, Stichodactyla à tentacules courts, les anémones magnifiques, Hétéractis à tentacules longs et les anémones à tentacules en bulbe, Antacmea. Les 28 espèces de poissons clowns ne vivent pas toutes dans ces trois groupes. Certaines espèces sont généralistes et vivent dans n'importe quelle anémone, alors que d'autres sont spécialistes et ne vivent que dans une espèce précise. Le décryptage du génome des trois grands types d'anémones révèle des espèces cryptiques très différentes génétiquement. Si les zoologistes ne savent pas distinguer ces espèces nouvellement identifiées, les poissons clowns, eux, y parviennent très bien. L'essentiel. Les poissons clowns forment des symbioses avec des anémones de mer elles-mêmes symbiotiques. Ils ont un cycle de vie complexe et subissent une véritable métamorphose. Dans les anémones de mer, ils forment des colonies avec une organisation sociale très particulière. Ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans et changer de sexe. Plonger dans un récif corallien est une expérience fascinante. Vous vous immergez dans un labyrinthe de couleurs, de formes, avec des rochers aux formes incroyables, abritant fissures et falaises couvertes d'organismes. Vous découvrez un monde étrange, magnifique, où l'émerveillement est partout. Et si vous nagez dans les eaux de l'océan Pacifique, immanquablement, vous tombez dessus. Un petit groupe de poissons très vifs, évoluant au sein d'une anémone de mer posée sur un éperon rocheux. Se faufilant entre les tentacules avec ses couleurs orange et blanc, brillant, on le dirait sorti tout droit d'un écran de cinéma. C'est bien Nemo, le poisson clown. Si vous approchez, il sort vivement de son anémone, bouche ouverte, nageoire dressée, tentant de vous intimider en dansant devant vous, et puis vite, il retourne vers la sécurité de son anémone. Et là, en observant plus attentivement, vous voyez d'autres poissons de tailles différentes et vous comprenez qu'il y a devant vous toute une petite société. Écosystème fragile, les coraux souffrent particulièrement du réchauffement climatique. Ils blanchissent et finissent par mourir. Depuis une vingtaine d'années, les chercheurs s'intéressent au poisson clown car il est un témoin de la santé du récif corallien où il vit. En effet, il est particulièrement sensible à l'acidité et à la température de l'eau. Mais les biologistes ont découvert que le poisson clown avait bien d'autres intérêts. À l'instar du poisson zèbre, un poisson d'eau douce, le poisson clown pourrait devenir un modèle d'étude pour le milieu marin. En effet, au contraire de la plupart des espèces de récifs coralliens, le poisson clown se reproduit facilement en captivité. Par ailleurs, dans le milieu naturel, chaque individu vivant dans son anémone y reste pendant des années. Les chercheurs peuvent donc observer des poissons particuliers sur de très longues périodes, comparer leur couleur, leur physiologie, leur reproduction. Ils sont capables de suivre génétiquement leur descendance et de voir comment elle s'établit dans des anémones de mer plus ou moins distantes, d'espèces variées ou dans divers environnements. Avec cette espèce, il est donc possible de lier l'étude du développement d'un individu à des comparaisons évolutives entre espèces et écologie. Cela correspond précisément à une nouvelle approche que les chercheurs appellent éco-évo-dévo, pour biologie évolutive et écologique du développement. Et il se pourrait bien que les poissons clowns en soient de futures stars. Ménage à trois. Les 28 espèces connues de poissons clowns, chacune comptant 0 à 4 bandes, vivent toutes en symbiose avec une anémone de mer. Malgré leur nom de fleurs, les anémones de mer ne sont pas des plantes, mais des animaux. Elles font partie des cnidaires, un groupe zoologique situé à la base des animaux qui regroupe aussi les méduses et les coraux. Tous ont en commun d'exhiber à leur surface des cellules urticantes spécialisées, les cnidocytes, qu'ils utilisent pour capturer les minuscules proies planctoniques dont ils se nourrissent, ainsi que pour se défendre. Lorsqu'elles sont stimulées, par exemple par contact, les cnidocytes expulsent une sorte de harpon armé de dards féroces, le tout accompagné de substances toxiques. On comprend bien l'intérêt pour le poisson clown. Vivre au sein de ses tentacules urticants lui permet de se protéger des prédateurs éventuels. Si l'association entre le poisson clown et l'anémone de mer est évidemment bénéfique pour le poisson clown, qu'en est-il pour l'anémone de mer? La biologie distingue différents types de symbiose depuis le mutualisme où l'association est avantageuse pour les deux partenaires, jusqu'au parasitisme, où un des partenaires vit aux dépens de l'autre en passant par le commensalisme, où l'un des partenaires est indifférent à la présence de l'autre. Or, si on ne trouve jamais de poisson clown sans anémone dans le milieu naturel, on rencontre souvent l'inverse, des anémones vides, sans aucun poisson clown. Alors, commensalisme ou mutualisme? Plusieurs équipes ont montré qu'en présence de poissons clowns, les anémones grossissent jusqu'à 3 fois plus vite lorsqu'elles n'en hébergent pas. Il semble donc clair qu'on est ici en présence d'une véritable symbiose mutualiste. Plus précisément, on observe que les poissons bénéficient de 3 façons à leur anémone. D'abord, comme ils sont territoriaux, ils empêchent des prédateurs éventuels, comme certains poissons papillons, de venir croquer un délicieux tentacule. Ensuite, il a été démontré que les anémones se nourrissent des déjections des poissons clowns qui contribuent ainsi à leur croissance. Enfin, la nuit, lorsque les eaux sont très calmes, l'apport d'oxygène peut être insuffisant pour l'anémone incapable de se déplacer. Ce sont alors les poissons clowns qui assurent l'approvisionnement nécessaire de leurs hôtes en brassant l'eau autour d'elles avec leurs nageoires. La relation entre les deux espèces relève bien du mutualisme. Cette symbiose est encore plus fascinante que ce que l'on pensait jusqu'à présent, car elle prend la forme d'un véritable ménage à trois. En effet, les anémones sont elles-mêmes des organismes symbiotiques. Comme les coraux, elles hébergent une algue microscopique, Cymbiodinium, qui, bien à l'abri dans ses tissus, utilise l'énergie solaire pour faire de la photosynthèse et produire des sucres qui fournissent à l'anémone 80% de l'énergie dont elle a besoin. Nanette Chadwick, à Auburn, aux États-Unis, a mis en évidence des échanges nutritionnels entre le poisson clown, les anémones et ses micro-algues. Ainsi, si on donne une nourriture contenant un traceur faiblement radioactif à un poisson clown, on le retrouve peu de temps après dans les algues. et dans une anémone contenant des poissons clowns, la quantité de symbiodinium est plus importante. Et les algues sont physiologiquement plus actives que si les poissons clowns n'étaient pas présents. Vous écoutez Un clown, apprendre pour modèle, un texte de Pauline Salis et Vincent Laudet paru dans le magazine Pour la science en août 2022, numéro 538. Une société complexe. Lorsqu'on observe une colonie de poissons clowns constituée classiquement de 3 à 15 poissons au plus, où on s'aperçoit qu'il n'y a jamais deux poissons de même taille. Ces différences de taille entre tous les individus composent la base de la hiérarchie sociale chez les amphiprions. Au sommet de la hiérarchie se trouve une grosse femelle qui défend furieusement la colonie. Vient ensuite un mâle, environ 20% plus petit, le plus souvent responsable des œufs. Il les aère, les nettoie et enlève les mâles. Ensuite, on voit, toujours classés par taille, les juvéniles, que nous numérotons pour nous y retrouver. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ainsi, 1 est 20% plus petit que le mâle, 2 plus petit de 20% que 1, et ainsi de suite. Peter Boston, à l'Université de Boston, aux États-Unis, étudie depuis plus de 20 ans cette organisation sociale complexe. Il a mis en évidence le contrôle social de la croissance. Pour cela, il a supprimé le juvénile 2 dans des colonies. Dans ce cas, le 3 se met à croître jusqu'à atteindre la taille du 2. Mais lorsqu'il atteint 20% de moins que la taille du 1, celui-ci devient très agressif. La croissance du nouveau 2 ralentit alors, ce qui lui évite d'être expulsé. Destin fatal pour le poisson puisqu'il ne peut vivre sans la protection d'une anémone. Peter Boston a par ailleurs montré que deux juvéniles de même taille placés dans le même aquarium vont se mettre à grossir le plus vite possible, plus rapidement que s'ils étaient séparés chacun dans un aquarium différent, tous étant nourris strictement de la même façon. Chacun veut l'emporter pour être d'un rang plus élevé que son compétiteur. C'est la croissance compétitive. On voit bien l'intérêt d'un tel système. Les poissons clowns étant prisonniers de leur anémone, les reproducteurs ont à leur disposition des jeunes qui vont pouvoir remplacer le membre du couple qui disparaît. Cela implique en tout cas que les uns et les autres connaissent leur situation respective. Comment? Par les couleurs et les sons. Nous avons comparé en 2018 la diversité des patrons de bandes blanches rencontrés chez des communautés naturelles de poissons clowns. Nous avons observé que la probabilité d'avoir des espèces de poissons clowns arborant le même nombre de bandes dans une même région était faible. Il semble très probable que le nombre de bandes blanches joue un rôle de signal permettant aux espèces de se reconnaître mutuellement, d'autant plus que cette reconnaissance est vitale pour les locataires de différentes espèces occupant la même anémone. Ils n'y sont pas en concurrence pour la reproduction. Les toutes jeunes recrues chez les poissons clowns, les derniers arrivés dans une colonie, semble cependant détourner ce système pour se faire accepter dans les anémones. Nous avons en effet observé qu'elles ont souvent une bande blanche supplémentaire par rapport aux plus gros juvéniles et aux adultes. Cette bande va disparaître lorsqu'elles vont grandir et nous pensons qu'elle leur est utile pour délivrer un message simple aux plus gros. Je suis petit, je ne suis pas un compétiteur, acceptez-moi. À Okinawa, nous sommes en train de réaliser en laboratoire et dans le milieu naturel des expériences pour tester ces hypothèses. Les brillantes couleurs de ces poissons sont d'ailleurs loin d'avoir livré tous leurs secrets. Au moins savons-nous qu'elles varient en fonction de l'espèce d'anémone dans laquelle les poissons vivent et qu'elles apparaissent pendant la métamorphose de la larve à l'individu juvénile. Nous avons montré également que les hormones thyroïdiennes jouent un rôle très important dans la pigmentation. Les poissons clowns communiquent aussi en claquant des mâchoires. produisant des sons dont Éric Parmentier et son équipe à Liège, en Belgique, ont montré qu'ils sont importants pour les relations hiérarchiques dans les colonies. Ainsi, chez les amphiprions, on crie pour marquer son territoire, imposer le respect aux autres ou en signe de soumission. La femelle, qui est bien plus imposante que le mâle, produit les sons les plus graves. Les mâles, au gabarit plus léger, font des sons aigus et les juvéniles des sons encore plus aigus. La fréquence renseigne sur le rang social des poissons. Une longévité sans égale. La durée de vie des poissons clowns a été estimée à environ 30 ans, alors qu'on s'attend typiquement pour un poisson de cette taille à une longévité d'environ 5 à 10 ans au maximum, parce que cette durée de vie est beaucoup plus longue que celle d'autres poissons comparables, les poissons clowns sont très intéressants à étudier. Ainsi, récemment, Alessandro Celerino et ses collègues à Pise, en Italie, ont identifié des gènes ayant subi une évolution moléculaire accélérée qui semblent avoir contribué à favoriser la longévité singulière des amphiprions. Ils ont notamment identifié des gènes importants pour le fonctionnement des mitochondries, les centrales énergétiques des cellules. Or, chez certaines espèces de vertébrés, il a été établi que les mitochondries jouent un rôle clé dans la régulation de la longévité. Les poissons clowns, nouvel avatar de la fontaine de jouvence. Vous écoutez « Un clown à prendre pour modèle ». Un texte de Pauline Salis et Vincent Laudet, paru dans le magazine Pour la science en août 2022, numéro 538. Un développement influencé par un long voyage. Dans les colonies, on voit souvent, non sans mal, de minuscules poissons de quelques millimètres. Ces nouvelles recrues sont les tout derniers à rejoindre une anémone déjà occupée. D'où viennent-ils? Nous savons que les parents pondent entre 500 et 1000 œufs à proximité immédiate de l'anémone de mer dans laquelle ils vivent et les défendent jalousement. Après 7 jours, le soir, juste avant le coucher du soleil, les œufs éclosent, les alevins montent à la surface et sont emportés par les courants dans l'océan. Ces larves vont se retrouver dans la zone pélagique, autrement dit dans le grand bleu, avec le plancton, et vont se nourrir et grossir pendant 10 à 12 jours. À vrai dire, on ne sait à peu près rien de la façon dont elles vivent dans l'océan et, au vu de leur fragilité, lorsqu'on les élève en laboratoire, on se demande comment elles peuvent y survivre. D'autant plus qu'à l'issue de cette phase de croissance, le plus dur reste à faire. Nager vers le récif, trouver une anémone et s'y faire accepter. Le voyage du Nemo de Pixar n'est rien à côté de l'immense défi qu'a dû relever chaque poisson clown que l'on observe à l'âge adulte. Cette étape est pour le poisson une véritable métamorphose où l'on va assister, comme lors de la transformation d'un têtard en grenouille, à une modification de l'animal sur tous les aspects. Anatomie, physiologie, comportement, couleur, tout est bouleversé. Une larve océanique transparente se mue en un petit juvénile coloré inféodé au récif. Avec Natacha Roux à Okinawa, au Japon, nous avons montré que la vision, le métabolisme, c'est-à-dire la capacité à utiliser l'énergie provenant de la nourriture, mais aussi le squelette, était modifié à cette étape. Grâce au parallèle offert par la métamorphose du têtard en grenouille, nous avons ainsi montré que ce sont des hormones bien connues chez l'homme, les hormones thyroïdiennes, qui déclenche et coordonne cette métamorphose. Toute la question est à présent de savoir comment une larve perdue dans l'océan parvient à repérer le récif vers lequel elle doit nager. Les travaux menés à Kimbe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par Geoffrey Jones, Serge Planès et Simon Thorold montre que les jeunes recrues peuvent s'installer dans des anémones situées à plusieurs dizaines de kilomètres de leur lieu de naissance. D'autres collègues, comme Jeff Leese en Australie et Daniel Dixon aux États-Unis, ont observé que les larves pouvaient nager longtemps et activement, remonter des courants contraires et qu'elles étaient attirées vers le récif par l'odeur de la végétation terrestre en décomposition. Les travaux de Yoko Naya à Osaka ont mis en évidence qu'une fois dans le récif, elles repéraient les anémones en étant attirées par des effluves chimiques produits par celles-ci. Mais il reste encore bien des choses à découvrir sur ce voyage immense qui se reproduit génération après génération et qui est essentiel pour la survie de l'espèce. Le poisson clown au laboratoire. Les poissons clowns font figure d'exception parmi les poissons coralliens car on peut les faire se reproduire en captivité et ainsi suivre l'intégralité de leur cycle de vie en laboratoire. Cela fait d'Amphiprion un modèle d'étude particulièrement prometteur pour comprendre un certain nombre de processus biologiques en réalisant à la fois des approches sur le terrain, sur de vraies colonies en mer, mais aussi au laboratoire. Nous avons pu ainsi décrire dans le détail les différentes étapes de la transformation de la larve en juvénile. Avec Laurence Besseau, à l'Observatoire océanologique de Banyuls, nous tentons de comprendre quelles variables environnementales déclenchent le processus de cette métamorphose. Il est tout à fait impossible de faire ce type d'expérience en milieu naturel où les larves sont introuvables, perdues dans l'immense océan. Justin Rhodes, à l'Université de l'Illinois aux États-Unis, s'intéresse, lui, au changement de sexe et à l'agressivité chez les poissons clowns. En réalisant des expériences sur des animaux au laboratoire, il a découvert que certains neuropeptides promeuvent la défense de la colonie par les femelles, alors que d'autres régissent le comportement de soins aux œufs des mâles. Il est également possible au laboratoire de recréer des colonies naturelles pour comprendre l'effet des changements globaux comme l'acidification des océans, les vagues de chaleur ou la pollution chimique sur les poissons coralliens, comme le fait Daniel Dixon à l'Université du Delaware aux États-Unis. Toutes ces études ont pour but de mieux comprendre comment les poissons coralliens s'adaptent à cet environnement difficile et sans cesse changeant. Elle vise aussi à améliorer nos techniques d'élevage de ces poissons. En effet, le succès du film Nemo de Pixar a eu une conséquence malheureuse, celle de pousser de nombreux enfants à avoir des poissons clowns en aquarium et donc d'augmenter les captures dans le milieu naturel, induisant une raréfaction de ces poissons dans certaines zones comme les Philippines. Il ne faut plus prélever ces poissons et ne conserver en aquarium que des spécimens d'élevage. Une résistance unique aux défenses des anémones. Comment les poissons clowns parviennent-ils à vivre au sein des tentacules urticants des anémones? Il est clair que malgré des contacts répétés, les cnidocytes de celles-ci, équipés de dards et de substances toxiques, restent inertes. Mais pourquoi? De nombreux chercheurs se cassent les dents depuis les années 1960 pour tenter de le comprendre, et cela reste un mystère. Il est certain que le mucus qui enduit le corps des poissons clowns est une partie de l'explication. Il semble bien qu'il soit dépourvu de certains composés, sans doute de sucres associés aux acides sialiques, qui sont connus pour favoriser le déclenchement des cnidocytes. Ces suspicions ont été récemment renforcées par l'équipe de Nicolas Salamin à l'Université de Lausanne. En effet, en comparant les génomes de 9 espèces de poissons clowns avec ceux de plusieurs espèces proches qui ne vivent pas associées à des anémones, les chercheurs ont trouvé des gènes ayant des traces d'évolution particulières chez les amphiprions, dont notamment des gènes impliqués dans le métabolisme des sucres. une piste à creuser. C'était « Un clown à prendre pour modèle », un texte de Pauline Salis et Vincent Laudet paru dans le magazine « Pour la science », numéro 538.
Vous pourriez recevoir jusqu'à 100$ pour avoir payé du pain trop cher. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 11 septembre 2025 dans Le Devoir. Les Québécois ayant acheté leur pain trop cher dans une épicerie du groupe Loblaw entre 2001 et 2021 peuvent enfin réclamer une indemnisation qui pourrait grimper jusqu'à 100$. Les personnes concernées sont invitées depuis jeudi le 11 septembre 2025 à faire leur réclamation sur le site www.règlementpainquebec.ca. Ils ont jusqu'au 12 décembre pour la soumettre. Aucune preuve d'achat n'est requise. Il suffit d'avoir, pendant ces deux dernières décennies, acheté un produit de pain emballé dans un établissement du géant de l'alimentation Loblaw, soit Maxi, Provigo et Pharmaprix, ou tout autre substitut de pain, comme des bagels, des muffins anglais, des pitas ou encore des tortillas. Rappelons que Loblaw a admis en 2017 avoir participé à un stratagème de fixation des prix du pain, une stratégie considérée comme illégale qui aurait permis aux entreprises impliquées dans le complot d'empocher des milliards de dollars. D'après le Bureau de la concurrence qui a enquêté sur l'affaire, les prix du pain emballé et de ses dérivés ont été artificiellement gonflés d'au moins 1,50$ à travers le pays. Visé par une demande d'action collective, Loblaw a finalement signé une entente de règlement l'an dernier et a accepté de verser 404 millions aux consommateurs lésés. La chaîne avait déjà distribué l'équivalent de 86 millions en cartes cadeaux de $25 il y a quelques années, portant donc le total du règlement à 500 millions. De ces 404 millions, 89 millions, soit 22%, seront dédiés aux Québécois, le reste sera partagé dans les autres provinces canadiennes. La somme perçue par les consommateurs dépendra donc du nombre de réclamations enregistrées. À noter que les clients ayant déjà obtenu une carte cadeau de $25 auront un remboursement amputé de $25. Par ailleurs, les avocats au dossier, les cabinets LPC et Renault et Vatilakis, réclament pas moins de $21 millions en frais administratifs et honoraires, ce qui pourrait faire baisser la somme totale disponible si cette demande est acceptée par la Cour. Ce règlement est loin de mettre fin à cette affaire de cartel du pain, puisque d'autres entreprises sont aussi visées par l'action collective. Il s'agit de Sobeys, IGA, Walmart, Metro, Tigre Géant et Canada Bread. Toutes nient leur implication dans le cartel. C'était « Vous pourriez recevoir jusqu'à $100 pour avoir payé du pain trop cher », un texte d'Annabelle Caillou, paru le 11 septembre 2025 dans Le Devoir.